mais le printemps viendra.
Il est 16h précises, il fait 19 degrés à Victoria, le ciel est ensoleillé. Bienvenue chers auditeurs dans Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9. Un menu bien consistant aujourd'hui, comme c'est l'habitude en ce mercredi 13 juillet. Restez à l'écoute. En interview tout à l'heure, je m'entretiens avec le traducteur et bibliophile David Wariner, qui me parlera d'une nouvelle maison d'édition, QC Fiction, qui s'intéresse aux talents littéraires québécois et canadiens-français au point de le publier en traduction anglaise. C'est donc une bonne nouvelle pour les auteurs. On en parle vers 16h40. Pour l'heure, on envoie tout de suite les bulletins d'infos de Denis Lépine. On vous retrouvera tout de suite après, dans quelques minutes, avec la suite des actualités, notamment provinciales. Bonne émission! Le débrief est rendu possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Un nouveau rapport du Conference Board du Canada se penche sur l'influence des centres financiers du pays. Le document souligne que Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver se complètent avec leurs propres outils. Michael Burt, directeur des tendances industrielles au Board, a dit que le système financier canadien est considéré comme l'un des meilleurs et des plus solides au monde. Il a ajouté que cette notoriété grandissante à l'échelle mondiale est largement attribuable à ces quatre centres financiers. La ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, a salué les réussites de la délégation du Canada en Ukraine. Elle a dit notamment que l'accord de libre-échange permettra d'accroître les débouchés commerciaux offerts aux entreprises canadiennes et ukrainiennes. Elle s'est dit aussi ravie de voir personnellement comment ces entreprises collaborent pour renforcer les liens interpersonnels et commerciaux entre les deux pays. Le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Ukraine a connu en 2015 une hausse de 13,9% par rapport à 2014. Les ministres Stéphane Dion et Marie-Claude Bibeau ont fait une déclaration sur la situation au Soudan du Sud. Ils ont dit que le Canada est profondément préoccupé par la reprise des combats dans ce coin de l'Afrique et demande à toutes les parties qui ont signé l'accord de paix en août 2015 de déployer les efforts nécessaires pour s'assurer que les hostilités cessent immédiatement. Ils ont déclaré aussi que le Canada condamne fermement le meurtre de Casque Bleu au service de la mission de paix des Nations Unies. Quelques 200 militaires des Forces armées canadiennes ont quitté le Canada pour les Pays-Bas et prendront part à la 100e édition annuelle de la marche de 4 jours de Nimeg. Le Canada participe à la marche depuis 1952. L'événement de 2016 aura lieu du 19 au 22 juillet. La marche de Nimeg est devenue au fil des ans un événement prestigieux international de 4 jours qui attire des militaires de 50 pays désireux de mettre à l'épreuve leur endurance physique et mentale. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, s'adressera aux médias cet après-midi. Le ministre fera le point sur la participation du Canada à la coalition mondiale de lutte contre le groupe armé État islamique. État islamique a revendiqué, rappelons, plusieurs attentats terroristes au cours des dernières semaines. Bernie Sanders a finalement donné son appui à Hillary Clinton. Lors d'un rassemblement à Portsmouth au New Hampshire et en présence de l'ancienne secrétaire d'État, Sanders s'est engagé à faire tout ce qu'il peut pour aider son ancienne rivale à vaincre Donald Trump. Pour sa part, Donald Trump a déclaré sur son compte Twitter que Bernie Sanders venait de perdre toute la latitude qu'il avait et ses supporters sont en colère. Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations du Canada dans le sud ontarien, eh bien, la ministre des Affaires autochtones et du Nord, Caroline Bennett, et le chef national de l'Assemblée, Perry Bellegarde, ont signé un protocole d'entente à Niagara Falls. Le ministère estime que le protocole marque le début d'un processus de collaboration qui permettra au Canada et aux Premières Nations d'examiner en profondeur la relation financière en place. Le gouvernement Trudeau s'est engagé à hausser le plafond de 2 % imposé au financement des programmes des Premières Nations. De plus, un comité mixte examinera les ententes financières existantes. Le comité présentera ses recommandations d'ici le 31 décembre 2017. Programme de santé et de bien-être communautaire de la Croix-Rouge canadienne, eh bien, Aviva Canada a confirmé son partenariat dans ce dossier. La Croix-Rouge canadienne a indiqué dans un communiqué que l'accord de parrainage avec l'entreprise de 750 000 $ sur 3 ans, eh bien, sera déterminant pour l'aider à répondre aux besoins de santé croissants des Canadiennes et Canadiens, entre autres les services de transport, de distribution de repas et d'inclusion sociale. Au sport au baseball majeur, eh bien, la Ligue américaine a gagné le match des Étoiles 2016 4-2 contre la nationale. Eric Hosmer des Royals de Kansas City a reçu le titre de joueur du match avec 2 points produits. Tour de France, l'Australien Michael Matthews a remporté la 10e étape entre Escaldes et Revel, une étape de 197 km. Aujourd'hui, les cyclistes relieront Carcassonne à Montpellier, une balade de 162 km. Au hockey, les Hurricanes de la Caroline se sont entendus avec l'un des leurs. Victor Rask a signé un contrat de 6 ans d'une valeur de 24 millions de dollars. L'athlète de 23 ans était joueur autonome avec restriction. Et au football canadien, ce soir, Ottawa sera à Toronto.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. Alexis Gagnon au micro, je suis avec vous jusqu'à 17h. On va passer à présent aux nouvelles provinciales. On parle tout de suite du pipeline d'Enbridge, le Northern Gateway. Il a défrayé la chronique au cours des derniers mois. On en parle encore aujourd'hui après que la Cour eut bloqué jeudi 30 juin la construction de l'oléoduc controversé, le fameux Northern Gateway. Voilà que l'Office national de l'énergie a décidé il y a quelques jours de fermer définitivement le dossier de cet oléoduc. La compagnie Enbridge espérait obtenir de la part de l'Office national de l'énergie une prolongation d'exploitabilité de 3 années afin de maintenir la faisabilité du projet. La clause crépusculaire actuelle arrivera donc à échéance le 31 décembre 2016, cette année, en fin d'année, et ne sera pas prolongé en vertu de la décision de l'Office national de l'énergie. C'est Sherry Young, secrétaire du conseil de l'Office, qui en a informé le président d'Enbridge dans une lettre adressée récemment. Rappelons qu'en mai dernier, l'Office avait indiqué qu'il allait considérer la possibilité d'une prolongation, mais depuis, la Cour fédérale a rendu un jugement hostile contre le projet Northern Gateway et le gouvernement Trudeau, pour sa part, a imposé un moratoire sur la navigation de pétroliers dans la partie nord du littoral britanno-colombien. Ça a sans doute contribué à... dans la décision, ça a sans doute pesé dans la décision de l'Office national de l'énergie qui lui aussi rejette finalement le projet de la compagnie Enbridge. Il faut se souvenir que ce projet de 7,9 milliards de dollars devait relier l'Alberta à la côte britanno-colombienne. Enbridge a fait face à une opposition très mobilisée de la part des Premières Nations et des environnementalistes. Et ce, pendant que les prix du pétrole chutaient de façon importante. Donc, deux facteurs qui ont contribué à faire oublier et à faire annuler, en définitive, ce projet de pipeline qui était très controversé. Il n'est pas officiellement mort, ce projet. Il pourrait renaître de ses cendres, si vous voulez, mais il faudrait une intervention du gouvernement fédéral et les observateurs s'accordent pour dire que le gouvernement Ottawa n'est pas très favorable donc à ce projet. Il restera le cas du pipeline plus au sud, le Kinder Morgan Trans Mountain, qui est lui aussi très controversé et qui demeure qui demeure en plan, qui demeure en projet. On suivra ce dossier attentivement cet été et au cours de l'automne. Autrement, je veux vous parler de la ville de Vancouver. On apprend que Vancouver a l'intention d'éliminer les émissions provenant de nouveaux immeubles à partir de 2030, dont les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone. Le conseil municipal de Vancouver a donné son feu vert mardi, ça c'était hier, à un plan visant à augmenter l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte de carbone de la ville. Lorsqu'elle sera mise en place, cette stratégie obligera les nouveaux bâtiments vancouverois, tant dans les marchés résidentiels que commerciaux, à se conformer à un niveau d'émission zéro. La cible zéro émission était inscrite au nombre des recommandations d'un rapport remis au conseil municipal il y a quelques jours, le 5 juillet. À l'heure actuelle, environ 55% des émissions, ce qui est quand même assez considérable, dans la ville de Vancouver proviennent de la consommation en énergie des immeubles, bâtiments, maisons, etc. Donc c'est une grosse part de l'emploi. Empreinte carbone de la ville qui provient de l'immobilier, si vous voulez. Alors, ça, c'est en vertu d'une étude, justement, qui avait été menée par l'Institute for Climate Solutions de l'Université de Victoria. Donc, une mesure encourageante du côté de Vancouver. Espérons qu'elle fera des émules un peu partout au pays. Vancouver qui obligera donc les constructeurs de bâtiments à bâtir des immeubles à émission zéro, zéro émission à partir de l'horizon 2030. Autrement, plus localement, plus près de chez nous, je vous parle d'un fait divers. La police de Saanich a émis un avertissement après qu'une série d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles se soit produite dans le secteur de Gordon Head. Depuis le 4 juillet, on a rapporté 5 incidents au cours desquels un homme à moto ou sur un skateboard a ciblé des femmes seules. Des gestes indécents et des attouchements auraient été faits. La police de Saanich croit qu'il s'agit d'un seul et même agresseur qui serait âgé entre 20 et 30 ans. Il est de petite taille ou plutôt de taille inférieure à la moyenne. Il porterait alternativement une casquette de baseball et un casque de moto de couleur verte. Toute personne ayant des informations à communiquer sur ces crimes est invitée à contacter le service de police de Saanich. Autrement, du côté de Victoria, la police de Victoria est actuellement à la recherche d'une jeune femme disparue. Il s'agit de Françoise Farwell. Elle a 24 ans. C'est une jeune femme d'origine haïtienne, mesurant 5 pieds 4 et d'un poids d'environ 63 kilos. Elle se fait aussi appeler Frankie. Un article paru sur le site Check News ces jours-ci nous informe qu'elle accuse un léger retard de développement. Elle est recherchée activement par la GRC de Nanaimo depuis le mois de mai. Elle aurait été vue à Victoria récemment, à savoir au Starbucks de James Bay, non loin de du Parlement, aux environs du 15 juin. Et elle aurait été également aperçue à Tent City, le campement de fortune des sans-abri de Victoria, à proximité du palais de justice de Victoria. Donc la police de Victoria demande à toute personne qui croisera Frankie, Françoise Farwell, de contacter immédiatement le 911. Autrement, nouvelle encourageante pour les amateurs d'observation de baleines et pour pour ceux qui ont à cœur la cause environnementale. On rapporte que le rorqual à bosse, c'est un cétacé, est de plus en plus observé au large de nos côtes. Un nombre sans précédent de rorquals à bosse a été aperçu dans la mer des Saliches, entre Victoria en Colombie-Britannique et Port Angeles en face dans l'État de Washington, selon une association de 38 entreprises d'observation de baleines de la côte ouest. Donc c'est une nouvelle que vous trouverez assez facilement sur la toile. Elle a été reprise par différents médias aujourd'hui avec plusieurs photos à l'appui. Donc le rorqual à bosse, c'est mammifères marins énormes, comme vous pourrez le constater dans les différents articles publiés sur ce sujet aujourd'hui. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. On regarde la station du campus de l'Université Victoria. Environnement Canada nous informe qu'on a 19 degrés actuellement sur Victoria. Le ciel est entièrement dégagé. On a 20 degrés. Ça demeurera dégagé en soirée. Et pour demain, jeudi 14 juillet, fête nationale des Français, jour de la prise de la Bastille. En ce 14 juillet, donc, on aura une belle journée. Les organisateurs de l'Alliance française et de l'événement de Centennial Square qui se tiendra en soirée pourront s'en réjouir. On aura 19 degrés, donc, avec le soleil. Quelques nuages, rien d'alarmant demain, donc en ce 14 juillet. Et un petit peu plus loin dans le temps, pour vendredi 15 juillet, on aura 22, un petit peu plus chaud, et un ciel sans nuages, tout simplement. Le soleil sera roi et maître. On va passer en musique. On fait une petite pause avec la formation La Femme. On écoute la pièce Où va le monde? À tout de suite.
Je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je n'ai plus d'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin, je pleure et je renie. C'est la larme de toi qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, il y a toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Je ne peux plus cacher ma vie.
formation La Femme dans le débrief 16h20. Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Merci d'être à l'écoute. On va passer à la nouvelle du jour. Vous le savez peut-être, le 10 Downing Street, qui est la maison du Premier ministre en Grande-Bretagne, a un nouveau locataire et c'est une femme, une première depuis très très longtemps. Il s'agit de Theresa May. C'est la nouvelle Première ministre puisque chaque jour qui passe nous amène de nouveaux rebondissements dans cet après-Brexit du 23 juin. Alors, on a appris cette semaine le départ hâtif de David Cameron, qui avait, au lendemain du référendum, d'abord annoncé qu'il quittait cet automne. Il a devancé son départ et le voilà déjà parti. Il n'est plus qu'un souvenir. C'est Theresa May, désormais, qui a les clés du 10 Downing Street. Il y a un petit portrait biographique proposé par le portail de Radio-Canada qui est Theresa May. Alors, pour le savoir, on n'a qu'à parcourir cet article paru aujourd'hui. Je pense qu'il a été publié aussi ailleurs dans d'autres médias. Je crois que c'est un papier de l'agence France Presse. Quoi qu'il en soit, je vous en lis quelques passages. À 59 ans, Theresa May devient la seconde femme première ministre du Royaume-Uni, près de 26 ans après la démission de Margaret Thatcher. Avant même l'entrée en fonction de Margaret Thatcher en 1979, Theresa May nourrissait déjà ses ambitions politiques et parlait de devenir la première femme à occuper le 10 Downing Street. Donc, c'est pas d'hier que cette dame visait la tête de l'État britannique. Elle fait son entrée au Parlement britannique en 1997 après deux tentatives infructueuses. Elle est élue députée conservatrice de Maidenhead dans le Berkshire, alors que les travaillistes dirigés par Tony Blair gagnent avec une large majorité. Elle provient d'origine modeste, nous dit cet article paru sur le portail de Radio-Canada, née en 1956 à Sussex sous le nom de Theresa Brazier. Elle est la fille d'un vicaire de l'église anglicane. On rapporte que ses grands-mères étaient des employées domestiques. Comme Margaret Thatcher, elle est diplômée d'Oxford, la prestigieuse université anglaise. Lors de sa troisième année d'études, elle a rencontré son futur mari, Philip May. Elle deviendra banquière par la suite, comme lui d'ailleurs, son mari, et se lancera plus tard en politique, nous apprend ce papier paru dans le portail de Radio-Canada. Fraîchement élu, le premier ministre David Cameron l'avait nommé ministre de l'Intérieur en 2010, poste qu'elle a occupé pendant 6 ans. Jamais depuis 1896, un politicien n'avait réussi à garder ce portefeuille du ministère de l'Intérieur en Grande-Bretagne aussi longtemps. Pendant la campagne du Brexit, elle s'est ralliée au camp du maintien dans l'Union européenne, malgré ses positions eurosceptiques. Donc, elle a fait, si vous voulez, campagne à reculons, de bon gré, mais de façon tiède pour le maintien dans l'Union européenne. Donc, elle était l'alliée de David Cameron durant la campagne référendaire. Cependant, elle a été moins présente dans la campagne que David Cameron et son chancelier de l'échiquier, George Osborne. La victoire du camp du Brexit a poussé David Cameron a démissionné, je vous le mentionnais, de son poste. Quant à M. Osborne, le numéro 2, si vous voulez, ses espoirs de prendre la tête du Parti conservateur ont volé en éclats après la défaite de son camp. Il n'avait pas l'appui des membres du Parti conservateur. Son pourcentage n'était pas assez élevé. Je vous lis une déclaration... une petite déclaration de Theresa May dans la foulée de son entrée au 10 Downing Street. Notre pays a besoin d'un dirigeant qui soit fort et reconnu pour traverser cette période d'incertitude économique et politique, a-t-elle déclaré. Donc, c'est elle qui aura pour responsabilité d'exécuter la volonté populaire exprimée à travers le référendum du 23 juin, à savoir le Brexit. On va voir comment ça va se goupiller, si vous me passez passer l'expression. En tout cas, depuis le 23 juin, il y a eu plusieurs surprises, notamment le départ précipité de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, un maire qui est facilement reconnaissable à sa coiffure ébouriffée, qui n'est pas sans rappeler celle de Donald Trump. Et justement, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, est revenu à l'avant-plan de la scène politique aujourd'hui, puisque Theresa May l'a nommé ministre des Affaires étrangères. Donc son éclipse, son retrait de la politique a été de courte durée. Il faut mentionner aussi que Theresa May a nommé Philip Hammond au portefeuille des finances, oui, qui est donc Philip Hammond, qui devient chancelier de l'échiquier, oui, selon le terme employé en Grande-Bretagne pour désigner le ministre des finances. Voilà pour la nouvelle du jour. On fait une nouvelle pause musicale. On vous revient avec l'agenda culturel dans quelques instants. À tout de suite. Mountains dans l'émission Le Débrief avec la pièce La Vie Dure. L'émission Le Débrief se poursuit. On va passer à l'agenda culturel dans un instant. J'ai quelques petites options à vous proposer. Évidemment, il y a bien sûr demain, 14 juillet, la fête nationale des Français. Ils sont nombreux et dynamiques à Victoria. Ils se rassemblent demain au Parkside. C'est un hôtel situé au 810 Humboldt à Victoria. C'est un 5 à 7. Vous êtes bien sûr les bienvenus, que vous soyez ressortissant français, canadien ou de quelque autre pays du monde, vous êtes les bienvenus. All are welcome, comme le dit si bien l'affiche qu'a préparée à cette occasion l'Alliance française de Victoria. Pour avoir plus de détails, vous allez à l'adresse afvictoria.ca tout simplement. Et mentionnons qu'un petit peu plus tard, sur les 18h, 18h30, il y a une formation qui s'appelle les Noces Gitanes, qui se produira justement dans le cadre de cette Bastille Day. Les Noces Gitanes, oui, qui se produiront à Centennial Square en fin de journée vers les 18h, et c'est co-organisé avec la Société francophone de Victoria. Donc vous pouvez commencer par le 5 à 7 de l'Alliance française au Parkside Hotel et vous acheminez ensuite vers le Carré Centennial pour la musique. Ça serait un bon programme à suivre. C'est ce que plusieurs personnes vont faire demain, donc dans le cadre du 14 juillet. J'ai aussi envie de vous mentionner ce qui est projeté du côté du campus de l'Université de Victoria au cinéma d'art et d'essai Cine Santa. On a un film de fiction biographique, un biopic comme on les appelle à Hollywood, intitulé The Man Who Knew Infinity. C'est à 19h et 21h15. C'est l'histoire vraie d'un génie des mathématiques indien originaire de l'Inde, donc de la région de Madras, si ma mémoire est bonne, qui réussit à établir un contact avec des savants du Trinity College de Cambridge University. Et c'est son cheminement de génie des mathématiques qui essaie de faire reconnaître ses découvertes malgré la barrière culturelle, malgré, en dépit de certains préjugés, bien sûr. Donc ça se passe au début du 20e siècle. Alors l'Empire britannique est à son sommet à ce moment-là. Donc ce film The Man Who Knew Infinity, c'est réalisé par Matt Brown, c'est un film britannique de 2015, 109 minutes à 19h et 21h15 à Cine Santa aujourd'hui et demain. Donc voilà pour les petites propositions et on va se retrouver de l'autre côté de la pause musicale. On va écouter une artiste que vous connaissez très bien. C'est une artiste de Victoria, elle s'appelle Myriam Parent, son groupe Combustion Lente est en spectacle très bientôt. On en parlera d'ailleurs dans l'édition de lundi du débrief. On vous donnera tous les détails du spectacle de Combustion Lente le 19 juillet. Pour l'heure, on écoute une pièce de son dernier album, Être sur le bord de l'eau, et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse.
Du soleil se brise, on dirait des étoiles, myriades de points d'énergie, d'une beauté sans égale, mini soleil aquatique qui glisse et parade en formation quelque peu chaotique. Et le bruit des vagues, c'est mon oreille gauche qui lui sert soudain de rivage. Difficile à saisir, chanson primordiale, douée d'un pouvoir inouï, le grand mystère sauvage qui brise le cœur humain, le guérit. Quelle splendeur, être sur le bord de l'eau, d'une entité pareille, infiniment subtile, d'une profondeur. Sur ma langue, l'océan réveille en moi des images caressantes. Partir au sud en famille, tout le monde en vacances. Passer deux semaines en camping, lire le reste de l'enfance d'une insouciance qui rend mélancolique. Quand enfin j'y entre, c'est d'abord à petite échelle. Un quart immense qui gronde, tonneur sous-marin lascif qui monte et qui tombe et frappe mes eaux de mortel en péril. Quelle splendeur, splendeur, être sur le bord de l'eau d'une entité pareille, infiniment subtile, d'une profondeur. Glacier de l'eau, sous le soleil comme sont nos larmes. Sur le dos des vagues, les rayons du soleil se brisent, on dirait des étoiles.
William Parent avec l'excellente pièce Être sur le bord de l'eau. C'est tiré de son dernier album, album qu'on doit désigner en fait sous l'appellation Combustion Lente. Myriam Parent qui a choisi le nom Combustion Lente et qui officie désormais sous ce nom. Elle sera en concert le 19 juillet, je vous le mentionnais. On ira dans les détails de son concert lundi, dans l'édition de lundi du débrief. J'aurai une entrevue à vous proposer avec Myriam Parent de Combustion Lente. On va passer à la revue de presse. On a quelques éditos repérés un peu partout sur la toile, dans les journaux d'ici et d'ailleurs. On commence par un texte d'Ariane Kroll dans le journal La Presse. Ça concerne les voitures sans conducteur. Ce sont des voitures qui ne sont plus qu'une hypothèse à propos d'un futur lointain. Elles existent et elles sont sur la route depuis quelques années d'ailleurs, et elles seront bientôt assez nombreuses sur nos routes. Donc Ariane Kroll signe un texte, une mise au point, si vous voulez, sur la situation actuelle des voitures sans conducteur. Même avec leur système de pilotage automatique, les Tesla ne sont pas des voitures sans conducteur puisque le chauffeur, justement, est censé garder les mains sur le volant. L'annonce d'un premier accident mortel survenu à bord d'une Tesla dont les fonctions de pilotage automatique étaient activées a néanmoins relancé le débat sur les véhicules autonomes, les driverless cars, comme on les appelle en anglais. Les attentes sont grandes, mais la transition s'annonce complexe, écrit Ariane Kroll dans ce papier paru dans les pages éditoriales du journal La Presse. La collision mortelle est survenue le 7 mai dernier. La National Highway Traffic Safety Administration américaine enquête aussi sur une sortie de route plus récente impliquant une autre Tesla pour savoir si le pilotage automatique était également activé. Et elle mentionne aussi la voiture de Google, parce que Google a mis au point une voiture sans conducteur également de son côté. La voiture sans conducteur de Google a elle aussi été impliquée dans des accidents, 20 collisions au total, et la première dont elle est véritablement responsable s'est produite assez récemment, après plusieurs millions de kilomètres parcourus par les différents modèles qui jalonnaient les routes. Ça s'est produit le 14 février dernier. Donc Ariane Kroll précise que les précédentes collisions étaient dues à des facteurs extérieurs, dont la distraction des autres conducteurs, ces pauvres humains qui commettent des erreurs humaines. Donc la programmation, écrit-elle, des véhicules sans conducteur va aussi poser des dilemmes éthiques considérables. Faut-il prioriser la sécurité des passagers ou celle des autres usagers de la route? Et c'est là la principale question qu'elle pose dans ce texte. Le public a des attentes contradictoires, montre une étude publiée le mois dernier dans le magazine Science. En fait, les attentes dépendent de si vous êtes derrière, si vous prenez place dans la voiture sans conducteur ou si vous êtes le piéton que la voiture menace de heurter. Donc elle écrit: imaginez une situation où la seule manœuvre permettant d'épargner 10 piétons tuerait l'occupant du véhicule. Que faire alors? Il serait plus moral que la voiture sacrifie son passager, ont indiqué les trois quarts des répondants américains sondés en ligne. Et s'ils achetaient une voiture autonome, demande l'auteur du texte, ils voudraient alors que celle-ci priorise la sécurité de ses occupants. Donc c'est là qu'est la contradiction. Et elle conclut son texte en disant: il faut résister à la tentation de légiférer prématurément dans le seul but de se rassurer. Cela ne réussirait qu'à freiner le développement de cette nouvelle génération d'automobiles sans nous protéger de leurs véritables dangers qu'on découvrira seulement à l'usage. Donc une position attentiste de la part de Ariane Kroll dans ce papier de La Presse qui est intitulé Voiture sans conducteur, pas comme sur des roulettes. Autrement, avant de passer à l'interview du jour, je vous signale un article paru dans Mediapart concernant le Brexit, le fameux Brexit dont on parle si souvent. C'est une... C'est un regard historique signé par Joanne Chapoutot, qui est historien, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, à Paris. Et il pose un regard historique de longue durée et il souligne que cela a fait défaut. On a beaucoup parlé des 50 dernières années de l'intégration de la Grande-Bretagne à l'Europe, mais dans ce texte, l'historien Joanne Chapoutot propose une lecture qui s'étend sur plusieurs siècles. Il souligne le caractère très insulaire de la nation anglaise, britannique, la nation des îles britanniques, qui a toujours eu des réflexes d'isolement. Il va jusqu'à rappeler l'étymologie du mot « île », qui est littéralement « isola », donc « isolement »,« isolé ». Et il remonte le temps. Voilà, donc il remonte très loin dans les siècles et c'est une analyse très intéressante que je vous recommande chaudement. En fait, c'est dans Libération.fr que ce texte est publié. C'est signé « Brexit, un oui dans la logique de l'histoire ». Brexit, un oui dans la logique de l'histoire. Donc le oui, bien sûr, c'est le oui au Brexit. Le Brexit a été remporté à environ 52%, si ma mémoire est bonne, le 23 juin. Autrement, dans Bastamag, on a un papier fort intéressant sur le commerce des armes qui nourrit la guerre au Moyen-Orient. Il y a un papier dans Bastamag intitulé « Vente d'armes au Moyen-Orient, les profiteurs de guerre sont européens ». Et c'est un article qui permet de ventiler les différentes ventes par pays. Donc ces pays européens qui vendent sans trop de scrupules, disons-le, à des pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres, des armes très sophistiquées et très chères et très mortelles finalement, armes qui sont parfois utilisées contre des populations civiles et dans des guerres qui sont très marquées par différentes exactions et actes contraires au droit international. Mais ça ne semble pas empêcher ces marchands d'armes européens de faire des affaires, et mentionnons que le Canada fait sa part lui aussi. On a beaucoup parlé du dossier des blindés, de ces blindés vendus à l'Arabie Saoudite au montant de 15 milliards de dollars, somme énorme, contrat que n'a pas voulu annuler le gouvernement Trudeau, malgré toutes les pressions qui ont été faites par la société civile et toutes les tribunes qui ont été signées pour l'empêcher d'exécuter ce contrat de livraison de blindés armés. Voilà, donc dans Bastamag, un article très éclairant sur la vente d'armes au Moyen-Orient. Vous le trouverez facilement, c'est sur la page d'accueil. On va se diriger vers l'interview. J'ai eu le plaisir de m'entretenir récemment avec le traducteur et bibliophile David Wariner, un résident de Victoria. Il m'a parlé d'une toute nouvelle maison d'édition, QC Fiction, qui dépend de Baraka Books au Québec. Et cette maison d'édition s'intéresse aux talents littéraires québécois et canadiens français. Et elle a pour mandat de publier en traduction anglaise des œuvres de la relève québécoise, du talent littéraire québécois émergent. Alors c'est une bonne nouvelle pour les auteurs. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de passer à la portion interview de l'émission. Aujourd'hui, on parle de littérature. On s'écarte un petit peu des sujets politiques habituels. On fait une incursion en culture. Je suis accompagné du traducteur David Wariner, un résident de Victoria, que vous pouvez retrouver, contacter, en parenthèse, à l'adresse traduction W. www.radiocanada.ca. Bonjour David.
Bonjour Alexis.
Alors, on parle d'un événement intéressant dans le monde littéraire canadien, français, francophone, québécois. Il y a une nouvelle maison d'édition qui est en activité depuis peu. Elle s'attache à faire rayonner le travail de jeunes auteurs de langue française du Québec dans le reste du Canada, le proverbial rock. De quoi s'agit-il, David?
Oui, en fait, Alexis, la maison d'édition est flambant neuve. Elle s'appelle QC Fiction. C'est une branche de Baraka Books, une maison d'édition bien installée à Montréal,
oui.
qui publie les œuvres, des œuvres en traduction.
Shout out to Baraka Books.
Baraka Books, merci. Et cette nouvelle maison d'édition est dédiée à faire rayonner la nouvelle littérature québécoise,
oui.
Bien fraîche, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Surtout par de jeunes auteurs, donc on parle d'auteurs dans la trentaine ou plus jeunes. Et l'autre point vendeur, si vous voulez, de cette maison, c'est que toutes les œuvres sont traduites en anglais par de jeunes traducteurs émergents qui débutent dans leur carrière de traduction littéraire.
Formidable, c'est un beau projet. Est-ce que on a déjà quelques exemples, quelques parutions au compte de cette branche de Baraka Books qui s'appelle QC Fiction?
Justement, oui, le premier livre vient tout juste de sortir le 1er juillet.
Waouh, c'est tout récent.
C'est une traduction de Bestiaire d'Éric Dupont. Et le titre en anglais est Life in the Court of Matane.
D'accord. Est-ce que tu l'as lu, ce bouquin?
Oui, je l'ai lu. Étrangement, je ne l'ai pas lu en français. Je l'ai lu en traduction anglaise. Je suis impliqué là-dedans en tant que relecteur.
Oui.
Donc, c'est moi qui ai relu le livre avant que ça parte à l'imprimeur.
D'accord. Et donc, c'est le tout premier volume de cette maison. Est-ce qu'on pourra se le procurer en Colombie-Britannique à titre de curiosité?
Sûrement que oui. On a toujours le réseau des librairies indépendantes, leslibraires.ca. C'est un peu... c'est une vitrine pour les librairies indépendantes, pour les gens qui préfèrent magasiner local plutôt que de passer par les grosses chaînes de vendeurs de livres.
Oui.
Ce sera probablement la seule façon de se le procurer en dehors du Québec actuellement, de passer par le site leslibraires.ca ou directement sur le site de QC Fiction. Je pense même... il y a peut-être un rabais de lancement au début, faudrait aller voir. Mais ce que la maison d'édition espère faire également, c'est d'encourager les gens de s'abonner aux titres qui vont paraître plus tard cette année. Donc en s'abonnant à QC Fiction, en s'engageant comme supporteur de littérature en traduction.
Oui.
Je pense que pour $45, on peut se procurer Life in the Court of Matane, ainsi que les deux titres qui vont sortir plus tard cet automne. Brothers, une traduction de Frère de David Clairson, ainsi que The Unknown Huntsman, la traduction anglaise du chasseur inconnu de Jean-Michel Fortier.
Wow, ok, donc pour $45, trois livres en traduction sous édition QC Fiction. Donc pour les anglophones ou les francophiles qui sont plus à l'aise en anglais, il y a cette référence-là, ou encore le livre dans sa version originale qu'on peut retrouver en tant que francophone, soit en le commandant à la bibliothèque ou en le commandant sur leslibraires.ca. Mais David, j'ai une question. Est-ce qu'il y avait une lacune auparavant en traduction? Est-ce qu'il y avait un vide à combler? Il n'y avait pas de traduction pour les jeunes auteurs du Québec? Est-ce que, justement, Baraka a constaté qu'il y avait un vacuum et sont allés dans cette niche pour essayer de le combler? C'est ça qui est arrivé?
Je pense que Baraka, en ouvrant la maison QC Fiction, a voulu donner une vitrine aux jeunes auteurs québécois pour leur donner une voix à l'extérieur du Québec. parce que même si des livres se vendent très très bien sur le marché québécois, mettons, si un livre vend 10 000 copies au Québec, c'est énorme, mais 10 000 sur l'échelle nationale ou mondiale n'est vraiment pas grand-chose. Oui. Donc, ce ne sont pas toutes les grosses maisons d'édition qui sont prêtes à s'engager sur un titre qui vont bien, entre guillemets.
Oui.
Ça prend vraiment des petites maisons d'édition pour faire rayonner ce genre de littérature-là.
D'accord, donc c'est bienvenu tout ce qui peut justement créer des ponts au pays, c'est formidable et ça fait connaître des auteurs qui peut-être par la suite seront remarqués sur la scène internationale. Je veux dire, ces livres-là vont peut-être circuler également aux États-Unis, en Europe et faire connaître les auteurs davantage.
Définitivement, le marché ne se limite pas au Canada. On peut parler d'une distribution aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, un peu partout dans le monde anglophone. Donc, ce serait un grand avantage pour ces jeunes auteurs québécois sur le plan mondial.
Génial. Est-ce que, Baraka, à travers cette unité QC Fiction, a une signature? Est-ce qu'il cherche un style particulier, une école ou une mouvance, ou ils ont quand même un spectre large? Leur ligne éditoriale, à peu près?
Baraka, la maison d'édition traditionnelle, en fait, se concentre sur les livres à titre politique ou historique.
D'accord.
Ils ont fait quelques aventures dans la fiction. On parle justement, ce qui me saute à l'esprit, c'est I Hate Hockey, une traduction de J'haïs le hockey de François Barcelos.
Ah oui, d'accord.
qui a été traduite en anglais par Peter McCambridge, qui est aussi le traducteur justement de Life in the Court of Matane.
D'accord.
Excuse-moi, je perds le fil.
Non, pas forcément. En fait, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils ont... ils recherchent un style particulier, une langue, une signature, une saveur particulière, comme on pourrait dire, ah oui, ça, c'est vraiment un auteur pour QC Fiction.
Oui, merci de m'avoir amené sur la piste, Alexis. Effectivement, la mission de QC Fiction est vraiment de faire rayonner les voix qui sortent de l'ordinaire. Oui. Par exemple, avec Le Chasseur Inconnu de Jean-Michel Fortier, c'est une... Jean-Michel écrit dans un style vraiment différent de ce qu'on trouve dans le domaine. Personnellement, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ça ressemblait à rien d'autre que j'avais lu auparavant.
C'est
du polar, c'est de la littérature, c'est une conte à l'ancienne.
Oui.
Ça se passe dans un village un peu à huis clos.
Oui.
Les villageois ne sortent pas de leur village et se méfient des étrangers vraiment à la mort, en fait.
Oui.
Quand quelqu'un ose s'aventurer à l'enceinte du village, c'est quelque chose qui va regretter. Mais je devrais parler plutôt de Life in the Court of Matane, parce que c'est celui-là.
Oui.
Qui vient de sortir. Le Chasseur Inconnu sortira plus tard en anglais.
Mais ce qu'on peut dire à propos du Chasseur Inconnu, c'est
oui.
Écrit dans une langue très libre, et t'as raison, c'est comme une fable, mais
oui.
Avec des éléments polars.
Oui.
La langue est presque orale par moment,
mm-hmm.
Mais elle est très littéraire aussi, donc en ce sens-là, c'est un petit tour de force, je crois, de la part de l'auteur, donc à surveiller. Parution très bientôt chez QC Fiction.
Oui, c'est un livre qui pousse les limites et qui sort de la définition du genre.
Oui.
En fait, et je pense que si on devait définir ce que fait QC Fiction dans la promotion du livre québécois en traduction anglaise, ce serait vraiment le défi des genres. C'est quelque chose qui va pousser les limites, qui va sortir de l'ordinaire. Quand on le lit, la réaction que ça va susciter chez le lecteur, c'est « Wow, c'est quelque chose de différent ».
D'accord. Et puis, en ce qui concerne Life on the Coast of Matan, qui vient de sortir, mm-hmm. qui est tout chaud sorti des presses, peut-être un petit synopsis de ta part, si tu peux mettre l'eau à la bouche des auditeurs.
Oui, Life on the Coast of Matan, la traduction anglaise de Bestiaire, oui. Derek Dupont. C'est l'histoire d'un jeune qui vit le mal de grandir à Matane, dans le bas du fleuve, au Québec, et qui a le malheur de vivre avec une famille divisée. Mm. Ses parents se séparent dès un jeune âge, sa mère est toute une caractère, son père aussi. Et puis, c'est l'histoire de sa relation avec la nature, le fleuve, le rêve.
C'est contemplatif, et puis en même temps...
Oui, c'est contemplatif, c'est le cas de le dire.
C'est poétique, et il y a tout de même un récit...
Et drôle en même temps.
Oui.
Il y a un certain point de l'humour là-dedans. Et La raison pour laquelle la traduction Life in the Court of Matane, la vie dans la cour de Matane.
Ah oui, d'accord.
On parle de la cour royale de Matane.
Ah d'accord, ok. J'avais entendu coast comme coast où j'étais. Oui,
ah, c'est mon accent. C'est mon accent, excusez-moi. Et donc, dans la cour de Matane,
oui.
dans lequel ce jeune homme grandit, c'est sa mère est une reine délaissée, en fait, alors que son père, c'est le roi Henri VIII.
D'accord.
Henri VIII, on dit en français.
Henri VIII, oui.
Henri VIII. Ouais. Et disons que le père est un tombeur de jupons. C'est un agent de la gendarmerie locale. Mm-hmm. De Matane et qui accumule les épouses comme le roi
oui.
Henri VIII. Et donc le jeune homme et sa sœur, je crois, surnomment chacune des femmes par des noms de reines qui ont été les épouses de...
C'est commode.
D'Henri IV.
D'accord, mais ça donne envie de
vous donner un peu l'idée de l'humour
qui traverse le livre.
Qui traverse le livre.
C'est et le troisième ouvrage qui sort bientôt chez QC Fiction.
Brothers, la traduction de frère de David Clairson.
D'accord.
Et également, c'est quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire.
Oui.
C'est un livre qui est quasiment fantastique. Ça parle de deux frères qui vivent dans un monde fantastique, qui s'imaginent comme des poissons, des éléments de faune maritime,
oui, okay.
si vous voulez. C'est tout ce que je peux dire au sujet. C'est quelque chose de complètement flayé.
Oui.
J'ai été obligé de lire, relire et relire encore le livre avant de comprendre. Et encore là, j'ai rien compris.
Ok, mais ça procure néanmoins un plaisir à la lecture. C'est une expérience.
Je ne sais pas comment, mais ça procure un plaisir fou.
D'accord.
C'est un livre que j'ai adoré également.
Donc, tous ces trois volumes sont publiés chez QC Fiction, qui est une branche de Baraka Books au Québec. Donc, Baraka Books a décidé de donner une vitrine aux auteurs québécois à travers QC Fiction. David Wariner, grand merci de nous avoir appris le lancement de cette nouvelle maison d'édition. On reparlera sans doute d'autres parutions plus tard, peut-être à la rentrée d'automne, qui sait. Et de littérature en général. Un grand merci, David.
Avec plaisir. Merci, Alexis.
C'était David Wariner, traducteur résident de Victoria, qui nous a visité en studio il y a quelques jours pour nous parler de QC Fiction. Merci, David. On va bientôt achever l'émission. Il nous reste à peine quelques minutes. On va bien sûr enchaîner avec l'excellente émission Allô, la planète à 17h, animée par Éric Lange. Je vous remets les petites infos météo bien en vue. Donc, je rafraîchis la page
page d'Environnement Canada, on va voir ce qu'on a actuellement. Ça a monté d'un cran. On a maintenant 20 degrés à Victoria. C'est entièrement dégagé. Le soleil occupe le ciel et ce sera dégagé en soirée également. Demain, 19 degrés, quelques nuages, mais le soleil sera nettement dominant pour la fête nationale des Français. Donc, ce 14 juillet et vendredi 15 juillet 22. Samedi 16 juillet 23. Donc ça va en montant. On aura des journées estivales, nettement estivales au cours des prochains jours. On nous annonce un ennuagement pour dimanche, mais c'est encore très loin. Donc voilà pour le moment. Et on va terminer l'émission. Alexis Gagnon au micro. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure d'info. Et on se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle édition du Débrief. À très bientôt.